Bonjour à chacun. Voilà, bien, ce matin, comme Jérémy vous l'a dit, je me suis inspiré de l'actualité dans le sens que ce dimanche, premier dimanche d'octobre, eh bien, est le dimanche où les chrétiens des nations prient pour la paix de Jérusalem, selon le psaume 122. Et donc, on peut allumer le... Merci. Voilà. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le prophète Zacharie. Et si on avait des doutes sur l'amour passionné de Dieu pour la ville de Jérusalem, eh bien, ces doutes seront chassés par la lecture de ce livre du prophète Zacharie, qui donne vraiment des promesses extraordinaires pour cette ville qui n'est pas comme les autres, qui tient une grande place dans la Bible, puisqu'il y a 600 mentions environ de cette ville dans toute la Bible. Donc dans Zacharie chapitre 1, versets 14 à 17, « Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Proclame, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites, car je n'étais qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem, avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, oracle de l'Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Proclame encore ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes déborderont encore de biens, l'Éternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. » Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, « L'Éternel choisira encore Jérusalem ». Et dans les temps que nous vivons, eh bien, il fait bon aussi s'en rappeler. Bon, cette parole a été donnée dans un contexte précis. Il était donné dans le contexte des Israélites qui sont revenus après 70 ans d'exil à Babylone et qui sont en train de se retrousser les manches pour bâtir le temple, la maison de l'Éternel. Après, ils vont rebâtir aussi la muraille avec Néhémie. Donc, c'est intéressant donc, de situer ce contexte. Et donc, maintenant, nous voyons Zacharie, prophète d'espérance. J'ai consulté le petit livre qui est dans notre bibliothèque de Francis Bellet. Connaissez-vous les petits prophètes? Très intéressant. Où l'auteur nous rappelle eh bien, que Martin Luther appelait Zacharie la quintessence des prophètes. Ces prophéties sont comme une lampe qui éclaire le chemin des croyants et leur montre le dessein final de Dieu. Et Zacharie affirme aussi avec force que Dieu interviendra de nouveau en faveur de son peuple, d'Israël, son peuple terrestre, et accomplira dans la personne du Messie toutes ses promesses. Donc Zacharie était contemporain donc, du prophète Agée, et il a prophétisé sur Juda et Jérusalem, donc vers 520 avant Jésus-Christ, donc la deuxième année du roi Darius, comme cela est attesté. Et donc, très probablement, ben, Zacharie faisait partie du voyage des pèlerins, enfin des pèlerins, non, pas des pèlerins, mais des exilés qui rentraient dans leur pays. Et donc, Zacharie, fils de Berechia, bon, d'abord, la signification de son prénom, l'Éternel se souvient. Quelle belle signification pour son prénom. Et son père s'appelait Berechia, qui veut dire « il bénit », et puis son grand-père, Ido, qui veut dire « opportun ». Alors vraiment, il y a un message caché là derrière aussi, derrière ce prénom, n'est-ce pas? Derrière ce nom. Et il arrive au moment, au temps de Dieu, opportun pour rappeler que Dieu se souvient de ce qu'il a dit sur sa ville et sur son peuple. Et la première partie du livre est une série donc d'enseignements pour encourager, consoler le peuple qui se met au travail pour reconstruire le temple, et la deuxième partie rappelle le plan de Dieu pour Israël et les nations qui va se réaliser dans les siècles à venir. Donc ces prophéties, vous le verrez, enfin on le voit, prennent une dimension messianique, et ces prophéties, ces révélations concernent à la fois la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi la seconde venue. Il y a donc une série de 7 visions et de 4 messages. Alors bien sûr, on va pas, le sujet est trop long, on ne va pas se lancer dans tout ça ce matin, on n'a pas le temps, mais on se concentrera sur le chapitre 3 de Zacharie, qui est à la fois, dans la première partie, un encouragement au sacrificateur qui s'appelle Josué, et à ne pas confondre avec le Josué de la conquête du pays de Canaan, et donc la deuxième partie qui est qui a une portée, on va dire, messianique. Donc on va lire Zacharie 3, les 5 premiers versets. Il me fit voir, le Seigneur, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales. » Et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, ou on peut traduire, « Il dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Donc, l'Éternel choisira encore Jérusalem. On voit que Jérusalem est au centre d'un conflit, on va dire d'un conflit spirituel. C'est une ville choisie par Dieu, mais vous savez que tout ce que Dieu choisit est contesté par son adversaire, Satan, qui est la définition donc, de son nom. Satan, c'est l'adversaire. Donc, je veux faire maintenant un survol rapide. Alors, il n'y aura pas besoin de chercher toutes les références, mais vous les avez sous les yeux. Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez les lire à la maison. Donc, la première mention de Jérusalem, elle se trouve dans notre Bible, dans la Genèse, chapitre 14, au verset 18, lorsque Melchisédek, roi de Salem, donc sacrificateur du Dieu Très-Haut, vient à la rencontre d'Abraham, qui revient, lui, vainqueur des rois, qu'il a combattu, enfin, qui avait kidnappé Lot, vous vous rappelez l'histoire. Et donc, il vient avec du pain et du vin. Voilà la première mention de Jérusalem. Alors, ensuite, la deuxième mention, c'est la montagne qui est désignée à Abraham pour le sacrifice d'Isaac. Abraham n'a pas choisi la montagne où il allait, où Dieu l'envoyait offrir son fils. Dieu lui a dit, tu iras sur cette montagne, sur le mont Morija, et donc cette montagne, eh bien, c'est l'emplacement du temple actuel. Donc c'est intéressant de le savoir. Ensuite, elle a été conquise par le roi David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, dernièrement, ça fait quelques années en arrière, on a fêté les 3000 ans de Jérusalem. Dans 2 Samuel 24, nous voyons aussi que lorsque l'Éternel avait frappé d'une plaie les Israélites, suite à une grave faute qui avait été commise, ils avaient été frappés de la peste, eh bien, David, le roi David, a été conduit à offrir un sacrifice à l'Éternel sur l'aire d'Arvana, qui est aussi l'emplacement actuel du temple à Jérusalem. Ensuite, il y a Salomon, plus tard, qui bâtit le temple, son fils, donc le fils de David. Et c'est là que l'Éternel lui dit dans 1 Roi, chapitre 9 et verset 3, qu'il va mettre à toujours, à jamais, dans ce lieu, son nom, donc c'est la personne, ses yeux et son cœur sur cette maison. Ce qui n'empêche pas, après, à cause des infidélités d'Israël, qu'il y a la destruction du temple, la déportation qui a lieu, et le Jérusalem qui est emmené captive, les Israélites et les gens de Jérusalem sont emmenés captifs donc à Babylone en 586-587. Voilà, sur deux ans à peu près, sur une année, on a une hésitation de date. Donc, maintenant Jésus et Jérusalem, là, je fais un survol rapide. Que nous dit Jésus par rapport à Jérusalem? Eh bien, le Seigneur Jésus, lui, il nous rappelle que c'est la ville du grand roi, sa ville, finalement. Il dit, ne jure pas, vous connaissez, c'est dans le serment sur la montagne, ne jure pas sur Jérusalem, ou que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne jure pas sur Jérusalem, ne prononce pas des paroles vaines, en quelque sorte, sur Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et comme Zacharie l'avait prophétisé dans son livre, au chapitre 9, il est venu aussi à Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse, vous savez, acclamé. Et il a accompli littéralement cette prophétie de Zacharie 9, mais aussi il a pleuré sur cette ville qu'il a aimée. Et je pense que ça vaut la peine de lire ce texte dans Luc, ceux qui ont une Bible, s'ils veulent le regarder, dans Luc 19, 39. Luc 19, 40, verset 41. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Dieu a visité Jérusalem. Comme il nous visite d'ailleurs aussi nous, à travers les siècles, il a visité nos nations qui ont reçu l'Évangile. Et il y en a parmi ces gens de Jérusalem, beaucoup qui n'ont pas reconnu ce temps. Et vous savez que 40 ans après cette parole, en l'an 70, la ville a été détruite par les armées romaines. 40 ans, année pour année, grosso modo. On pense que Jésus a prononcé ces paroles en l'an 30. Donc, nous voyons la précision de la parole prophétique qui s'est accomplie dans l'histoire. Et un peu plus loin, donc pendant 19 siècles, il y a eu environ à Jérusalem entre 14 et 15 occupations diverses. C'est impressionnant de voir toutes les peuplades et autres, les groupes qui ont passé à Jérusalem, y compris les croisés, hein, les nations dites chrétiennes qui envoyaient libérer Jérusalem et qui allaient tuer les infidèles. Donc, et finalement, donc, Jérusalem est restée occupée jusqu'en 1967, lors de la guerre des Six Jours, qui a permis la réunification de Jérusalem et le retour des Juifs pour prier aussi devant le fameux mur dont tout le monde connaît, mur des Lamentations. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je passe. Et c'est encore à Jérusalem que plus tard, le Seigneur Jésus a été crucifié. On vient de rappeler encore avec tous les enfants de Dieu du monde entier le sens de son sacrifice. C'est là que le Père a offert son Fils, ce qu'il avait de plus cher, pour racheter notre humanité condamnée pour chacun de nous. C'est encore à Jérusalem que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se montre vivant pendant 40 jours. À ses disciples. Et c'est de Jérusalem aussi qu'il remonte au ciel depuis le mont des Oliviers et où il reviendra personnellement en gloire poser ses pieds, Zacharie 14 nous le dit, sur cette même montagne. Donc, ceci nous aide un petit peu à comprendre pourquoi il y a un enjeu spirituel par rapport à Jérusalem. Et en attendant son retour, nous attendons son retour, il fonde l'Église, c'est-à-dire nous, toute la communauté des rachetés, à la Pentecôte, à Jérusalem, et jusqu'aux extrémités de la terre, la parole de Dieu va s'écouler, n'est-ce pas? Jérusalem n'est plus le centre du culte, c'est Jésus qui le dit à, la femme samaritaine. Nous sommes dans cette période où Jérusalem n'est plus le centre du culte, puisque le centre du culte, eh bien, c'est partout où il y a des enfants de Dieu, sur toute la terre. Mais par contre, Jérusalem est le point de départ de tout l'élan missionnaire et du rayonnement de la parole de Dieu, selon aussi la prophétie d'Ésaïe chapitre 2, qui est aussi une prophétie messianique. Et dans l'enseignement maintenant des Épîtres et du Nouveau Testament, on lit dans Galates chapitre 4, au verset 25 et 26, c'est Paul qui parle de la Jérusalem actuelle qui est dans l'esclavage avec ses enfants. Esclavage de quoi? Eh bien, finalement, de la religion, des efforts de l'homme qui essaye de plaire à Dieu, qu'on voit beaucoup dans le judaïsme, avec une sincérité certes remarquable, mais qui est basée sur les efforts de l'homme. Et donc la tradition nous maintient, la tradition religieuse maintient les hommes dans l'esclavage. Alors que la Jérusalem d'en haut dit, elle est libre. Paul nous dit qu'elle est libre et que c'est elle qui est notre mère. Et nous sommes participants de cette Jérusalem d'en haut. Et cette Jérusalem d'en haut, il nous est dit dans Hébreux 12 que c'est la cité du Dieu vivant où nous attendent tous les bien-aimés qui nous ont quittés, tous ceux qu'on aime et qu'on se réjouit un jour de revoir, qui ont été emportés par la mort et qui ont cru au Seigneur, eh bien, c'est vraiment aussi une belle espérance. Et puis, dans Apocalypse 21, il parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse pour son époux et qui manifeste la gloire de Dieu. Jérusalem, c'est une ville qui comporte donc des enjeux, comme je vous disais tout à l'heure, puisque c'est la ville sainte, considérée comme sainte par les trois religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et les musulmans. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques, une situation à risque où chacun la réclame, et en particulier le peuple palestinien, on l'a entendu dans les informations. Et il est important, devant cette actualité qui bouge et qui nous concerne quelque part tous d'une façon ou d'une autre, eh bien de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Il y a à Jérusalem environ 800 000 habitants. C'est une ville qui ne fait que de s'agrandir, parce que selon les prophéties de l'Ancien Testament, dans Jérémie, notamment dans Ézéchiel, le Seigneur fait revenir ces Israéliens, ou non, plutôt Israélites, des extrémités de la terre. Et selon ce qu'il a dit, eh bien, c'est vrai qu'ils prennent de plus en plus de place et cela dérange les nations, cela dérange beaucoup de gens. Mais c'est les textes bibliques et le plan de Dieu qui s'accomplit. Et donc, il est important donc, de réaliser, de comprendre tous les enjeux. Donc, dans Zacharie 12, verset 3, il nous est dit que en ce jour-là, donc dans les jours du Messie, alors en ce jour-là, ce n'est pas un jour, 24 heures, c'est une période hein, qui comprend une période. Eh bien, dans Zacharie 12, au verset 3, il est dit, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc un jour, il y aura un jour terrible dont la Bible ne nous fait pas de mystère ou de doute là-dessus. Et on n'est pas encore arrivé, bien entendu, à ce jour-là. Mais nous devons nous y préparer. Et donc ces jours des temps messianiques, dont il est parlé aussi dans l'Apocalypse au chapitre 16, la fameuse bataille d'Armageddon. Donc, ceci dit, heureusement, il y a aussi le chapitre 8 qui nous parle du rétablissement de Jérusalem, qui est appelé, et quand on lit tout ce chapitre, on comprend que ce chapitre ne concerne pas que les exilés qui rentraient un saint saint avant Jésus-Christ. Ce chapitre, il n'y a qu'à le lire, on voit qu'il concerne aussi les temps futurs, où il est dit que l'Éternel retourne à Jérusalem, demeurer dans cette ville, qui sera appelée ville de la vérité et montagne de la sainteté, jusqu'à ce que ce peuple juif, un jour, reconnaisse son Messie, pleure sur celui qui l'a percé, comme il est dit dans Zacharie 12, et que des eaux vives sortent de Jérusalem, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et il y a, sous le temple à Jérusalem, on peut aller, il y a des galeries, on peut visiter, et je connais des gens qui ont allé, qui ont fait des photos, eh bien, on voit l'eau qui coule. On voit de l'eau qui coule, des filets d'eau qui coulent et qui sont prêts pour le jour J où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et ces eaux sont une belle image du don du Saint-Esprit, de la purification des péchés que Dieu va opérer en un jour sur son peuple, ce peuple qui restera, et il est dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. Vous aspirez à ce jour? Moi, j'y aspire. Et vraiment, ça, c'est l'espérance de tout chrétien. Et il faut rien de moins que l'intervention aussi de l'ange, de l'armée de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui nous montre ce combat spirituel qui a lieu. Josué, souverain sacrificateur, l'ange de l'Éternel, et puis Satan qui est là pour l'accuser. Heureusement, Josué n'est pas seul. Et je propose qu'on revienne à Josué, chapitre 3, pour voir que Josué n'est pas seul. Et Dieu lui envoie un défenseur. Et ce défenseur, c'est l'ange de l'Éternel, ce qu'on appelle une théophanie dans l'Ancien Testament, une manifestation du Seigneur. Et c'était rien de moins que la personne du Fils de Dieu qui visitait la terre déjà dans l'Ancienne Alliance. Donc, à travers Josué, qui est accusé, c'est tout le peuple qui est accusé. Et que fait l'Éternel? Eh bien, l'ange de l'Éternel dit que l'Éternel te réprime. Il prononce une réprimande sur l'accusation satanique. Et nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 12, et ça c'est un chapitre que je vous encourage à lire, il comporte encore des mystères. Je ne vous cache pas que je n'ai pas tout saisi, toute la portée de ce chapitre, même que ça fait des années qu'on les lit et qu'on les relit, qu'on les étudie. Dans ce chapitre 12, il y a une clé, une interprétation qui nous aide à comprendre ce combat spirituel de l'adversaire, le dragon, qui combat la femme, qui est une image du peuple d'Israël, qui enfante l'enfant mâle, c'est-à-dire le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit au verset 10, Apocalypse 12, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà notre seule arme, et aussi bien sûr notre attitude. D'abord notre arme, le sang de l'agneau, qui ferme la bouche à l'accusateur, et aussi notre engagement à donner une parole de témoignage, à consacrer notre vie au Seigneur. Et puis après, il est dit que le dragon est irrité, au verset 17, contre la femme, et il s'en va faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire au peuple juif, et il n'y a qu'à étudier l'histoire d'Israël pour comprendre. Il fait faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il y a donc ici les deux peuples, le peuple terrestre, Israël, le peuple céleste, l'Église. Et aujourd'hui, qui c'est qui est le plus persécuté aujourd'hui? Eh bien, ce sont les chrétiens. Et puis l'antisémitisme aussi qui, mystérieusement, étonne toujours encore dans les nations. Pourquoi ça ressort toujours, cette haine aussi contre les Juifs? Voilà, là vous avez une clé pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, on regarde un petit peu ce que fait l'ange de l'Éternel. Il rappelle le choix souverain donc, du Seigneur sur cette ville, et puis il va transformer aussi les habits sales de Josué. Littéralement, paraît-il, habits couverts d'ordures. Donc, vous vous rendez compte, pour un souverain sacrificateur qui doit, dans sa tenue, qui normalement devait revêtir des habits de fin lin, des habits très purs, eh bien, c'est une violation de la loi du Seigneur et qui pouvait le condamner à mort. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 64, nous dit que nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, même ce qu'on essaie des fois de bien faire aux yeux du Dieu saint, eh bien, ça ne tient pas la route. Il y a nos manquements, nos péchés. Et si on est honnête avec nous-mêmes, eh bien, on le remarque, chacun de nous, qu'on a tellement besoin de la grâce et sans cesse besoin du pardon, de la purification par le sang de Jésus, comme il nous est dit dans la première lettre de Jean, ce sang qui nous lave de tout péché et qui nous purifie de toute injustice. Donc, là, je fais une application à nos vies. Osons et ne négligeons pas de confesser nos péchés et d'appeler un chat, comme on dit le langage courant. Ensuite, il lui dit de regarder. Il lui dit, vois, regarde, regarde, je t'ai débarrassé de ton péché, comme dit une traduction. C'est un ordre, regarde. Et le peuple d'Israël, dans le désert, aussi alors qu'ils avaient murmuré, qu'ils avaient été frappés par la plaie, vous savez, des serpents brûlants, eh bien ceux qui étaient mordus devaient regarder ce serpent élevé sur la perche, et quiconque regardait ou contemplait ce serpent conservait la vie. Une image magnifique du salut futur que Dieu allait donner par le Seigneur Jésus. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il nous est dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur cette croix. Et il nous appelle aussi dans Jean 6, 40, Jésus dit, quiconque, c'est Jean, évangile de Jean, chapitre 6, au verset 40, je vous lis ce beau verset. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans l'original, le mot voit, c'est contemple. Donc c'est plus que de regarder comme ça et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Contempler, c'est regarder longtemps. Voilà, regardons le Fils longtemps. Et c'est ce qu'on fait aussi le dimanche. Justement, chaque dimanche, on contemple notre Sauveur aussi en famille, dans la famille de Dieu. On se régale, on se réjouit de ce qu'il est venu nous sauver et aussi nous justifier. Et c'est ce qu'on voit dans la suite. On lui met d'abord des habits précieux, des habits de fête, qui nous rappellent aussi le fils prodigue, qui revient vers son père, on l'habille d'une belle robe. C'est le Père qui nous donne, le Père Céleste nous offre en Christ une robe de justice, la justice parfaite de son Fils, si bien que Paul dit aux Galates au chapitre 3 que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Quelle belle image. Ensuite, il lui donne un turban pur sur sa tête. Josué, par ce turban pur, parce que dans l'Ancienne Alliance, aucun sacrificateur ne pouvait s'approcher de l'Éternel sans avoir mis une coiffe où il était gravé sur une lame d'or. Ces mots, vous le connaissez, sainteté à l'Éternel. Hein? Donc, en donnant ce turban pur sur la tête de son sacrificateur Josué, c'est Dieu qui réinstallait officiellement ce souverain sacrificateur, alors que pendant toutes ces années, l'Éternel avait été en colère contre les péchés des Israélites et les avait châtiés. Eh bien, Dieu réintroduit son sacrificateur pour qu'il puisse célébrer le culte israélite, le culte de l'Éternel. Et j'ai fait aussi une application à un texte qui nous concerne. Paul, dans les Romains, il parle des païens. et donc des non-juifs. Et il dit qu'il a tout fait pour leur annoncer l'évangile, pour que les païens soient une offrande sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, notre coiffe, nous n'avons pas besoin de porter un chapeau particulier.
Thank you. Et qu'ils puissent veiller et prier, Seigneur, comme nous devons veiller.